RFI.
Géopolitique.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Dimanche dernier, les Libanais se sont pour la première fois depuis 9 ans rendus aux urnes pour renouveler leur parlement. Des législatives avec en arrière-plan la guerre en Syrie et le rôle du Hezbollah, allié à la fois de Damas et de Téhéran, l'afflux de réfugiés du pays voisin et la corruption qui gangrène le système politique. Que vont faire de leur victoire le Hezbollah et ses alliés, notamment le parti chiite Amal? Quelle marge de manœuvre pour le Premier ministre Saad Hariri? Sorti affaibli du scrutin, le Liban est-il revenu sous tutelle syrienne? Quel risque pour le pays en cas de guerre ouverte entre Israël et l'Iran après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien? On en débat avec en ligne de Beyrouth Karim Bitar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et professeur de Relations Internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. À mes côtés en studio, Aurélie Daher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine et à Sciences Po, spécialiste du Hezbollah. Et Samir Tueni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du bureau parisien du quotidien libanais Al-Nahar. Alors, le chef du Hezbollah, Cher Nasrallah, s'est félicité d'une victoire politique et morale de son parti. Karim Bitar, dans quelle mesure le Hezbollah sort-il renforcé de ces élections?
Écoutez, à vrai dire, les rapports de force n'ont pas été considérablement modifiés. Il est vrai que le Hezbollah, avec ses alliés du mouvement Amal, conforte son quasi-monopole sur la communauté chiite libanaise. Et ils ont également réussi quelques percées significatives dans des bastions sunnites, notamment à Beyrouth, où ils ont pu faire élire 4 députés, dont un candidat du Hezbollah qui est passé devant le Premier ministre Saad Hariri en nombre de voix. Donc, dans l'absolu, les rapports de force ne sont pas considérablement modifiés. Il y a un affaiblissement du courant du futur de Saad Hariri, mais je pense que la presse occidentale exagère un peu en présentant ces élections comme un raz-de-marée du Hezbollah qui serait venu considérablement changer la donne politique libanaise.
Aurélie Daher, comment expliquez-vous que ces premières élections législatives depuis 9 ans n'aient pas suscité plus d'enthousiasme, 49,2% de participation seulement, contre 54% en 2009?
Oui, je pense que le contexte est quand même très différent. Bon, la guerre en Syrie pèse clairement de tout son poids sur la manière dont les Libanais lisent aussi l'actualité nationale en interne à la maison. Je pense que aussi parce que la loi donnait clairement à comprendre qui allait être le vrai vainqueur. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont démoralisées. Il y a eu aussi un certain nombre de crises internes au Liban. Il y a eu toute la crise des poubelles il y a 2-3 ans.
À l'été 2015.
Exactement. Il y a eu aussi la crise donc de novembre 2017 avec la démission de Saad Hariri, j'en dirais à l'insu de son plein gré, comme aurait dit Richard Virenque dans les années 90, sous pression saoudienne, qui ont, je pense, sérieusement entamé les espoirs ou la confiance d'une certaines parties de l'électorat envers le processus électoral.
Samir Tueni, vous êtes d'accord? Est-ce que les Libanais sont désenchantés aujourd'hui?
Oui, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas un programme, si vous voulez, présenté par les politiques qui se présentaient à cette élection, et donc les Libanais n'ont pas trouvé, je dirais, un moteur pour leur permettre de partir aux urnes et de voter. Et il ne faut pas oublier qu'en 2009, il y avait une bataille assez forte entre, d'un côté, le bloc du 14 mars, de l'autre côté, le bloc du 8 mars, qui a fait qu'il y avait beaucoup plus de personnes intéressées pour aller voter, tandis que là, les sujets dont madame a parlé, la corruption, le manque d'eau, le manque d'électricité, tout cela n'était pas au fond des préoccupations des hommes politiques, et c'est cela qui a fait qu'il y ait eu cette démobilisation assez importante de l'électorat libanais.
Karim Bitar, je reviens sur cette désaffection des électeurs. Il y a eu des changements donc entre les deux scrutins dont on parle. Les Libanais de la diaspora avaient pour la première fois le droit de voter. L'électorat, évidemment, s'est rajeuni. Et donc, il y a cette nouvelle loi qui a introduit la proportionnelle, ce qui aurait pu permettre à la société civile d'être mieux représentée au Parlement. Or, contrairement à ce qui s'est passé en France l'an dernier, par exemple, il n'y a pas eu de « dégagisme », entre guillemets. Comment vous l'expliquez-vous ?
Absolument, on aurait pu penser que les conditions étaient réunies pour avoir enfin un vent d'air frais, un renouvellement de la classe politique libanaise, et on s'est rendu compte que cet establishment était particulièrement résilient. Ça fait des années qu'on nous parle de la résilience de la société civile libanaise, qui est bien réelle. Cette société civile a survécu à de nombreuses crises, à de nombreuses pressions. Mais la classe politique libanaise est également très habile pour trouver les mécanismes permettant sa reproduction. Cette loi électorale était assez habilement construite pour permettre justement le retour des vieilles figures, pour renforcer les partis communautaristes traditionnels. Et par ailleurs, la société civile a échoué à offrir une alternative séduisante et crédible. Donc on se retrouve avec quasiment les mêmes figures. Et ce qui a aidé à cela, c'est que le scrutin était particulièrement dépolitisé. La polarisation de 2009 était absente. Nous avions dans une même liste des figures appartenant à des camps radicalement différents. Ce qui fait que c'est le clientélisme qui a été roi. Ce sont plutôt des relations personnelles entre le candidat et l'électeur qui ont joué. L'argent politique a joué un rôle considérable. Et on se retrouve donc avec un Parlement avec moins de 4 ou 5 figures véritablement réformatrices, entre guillemets, dans laquelle les indépendants peuvent se reconnaître. Les grands gagnants, ce sont les partis traditionnels, aussi bien Amal et le Hezbollah qui ont conforté leur influence, que les principaux partis chrétiens, les forces libanaises et le courant du président de la République, qui eux aussi ont obtenu une quasi-domination de leur communauté au détriment des quelques députés indépendants qui se sont retrouvés plutôt marginalisés. Donc on en est revenu à un système de partis, à une véritable oligarchie libanaise où vous avez seulement 5 ou 6 personnes qui décident de tout. Et le problème, c'est également l'absence de démocratie interne dans chacun de ces 5 ou 6 partis. Donc c'est pour cela que les Libanais sont quelque peu dépités. Ils avaient le sentiment que les jeux étaient faits, que les résultats étaient connus d'avance, ce qui fait que la mobilisation a été assez faible.
Aurélie Daher, comment vous expliquez cette perpétuation du système clientéliste, du système des grandes familles? Est-ce que c'est la culture du chef qui est ancrée dans la culture libanaise pour qu'on respecte les consignes au sein de chaque communauté religieuse?
J'aime pas trop cette idée de culture du chef qui renverrait à une vision un peu primaire, j'ai envie de dire, de la politique. Faut pas oublier que le Liban est quand même passé par une guerre civile de 15 ans, qui a quand même fait 150 000 morts et 300 000 blessés, et qu'à partir de là, quand vous êtes dans des sociétés qui passent par des grandes crises violentes, on a tendance effectivement à développer des relations avant tout basées sur on va dire la priorité donnée à la sécurité, à la fois la sécurité physique et puis la sécurité en termes de gagne-pain, etc. Je pense que si la population libanaise là n'est pas allée de manière vraiment significative vers la société civile, d'abord je pense qu'il faut faire attention avec le concept de société civile. C'est un peu un concept fourre-tout où on se retrouve avec des personnes qui finalement en fait ne relèvent pas de la société civile. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que la société civile, elle est elle-même politisée et elle a elle-même des préférences idéologiques. Et donc même si on a des gens éventuellement, on aurait pu placer de nouvelles personnes, de nouveaux visages, ils auraient quand même pour leur majorité appartenu à une tendance plutôt qu'à une autre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, on a une société politique au Liban qui est fortement clientélisée et que on attend aussi de ses élus un certain nombre de services, un certain nombre de retours, de l'emploi, l'école pour les enfants, des choses comme ça. Et c'est vrai que les candidats de la société civile sont plutôt des gens qui viennent uniquement, je veux dire, avec leurs idées et leur bonne volonté. Donc du coup, ça peine à séduire une majorité.
Vous êtes d'accord, Samir Tueni, même la société civile, les candidats qui venaient de la société civile n'avaient pas vraiment de programme pour séduire, pour convaincre la population?
Si vous voulez, ils avaient peut-être un programme, mais cette loi manquait de lisibilité. Elle était vraiment hybride. Normalement, cette loi devait lutter contre le confessionnalisme, qui est le moteur, si vous voulez, de la vie politique au Liban. Et malgré tout, cette loi qui devait diminuer ce confessionnalisme dans l'élection parlementaire l'a accentué, parce qu'on a vu qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui ont voté vraiment pour leur confession et non pas pour un programme politique et pour le clientélisme qui est assez en vogue au Liban.
Karim Bitar, est-ce qu'il faudrait revoir le système confessionnel qui alimente le clientélisme, ou est-ce que ce serait trop dangereux dans un pays aussi fragile que le Liban ?
Ça fait à peu près 95 ans qu'on pose cette question. Depuis la création du Grand Liban, ce confessionnalisme était censé être provisoire avec la première constitution de 1926. Et on s'y retrouve encore. Il est temps, en effet, de mettre en application les accords de Taif votés à la fin de la guerre, qui prévoyaient la déconfessionnalisation du Parlement et la création d'un Sénat, donc une assemblée bicamérale. Vous représenteriez au Sénat les communautés, les familles spirituelles, comme on les appelait autrefois, qui auraient un droit de veto. Et le Parlement serait ouvert à une nouvelle classe politique sur une base non communautaire. Malheureusement, la classe politique existante n'a pas véritablement intérêt à aller dans ce sens-là, car c'est précisément ce confessionnalisme qui leur permet de mobiliser leurs troupes, de les mobiliser contre les autres. C'est très souvent la peur de l'autre qui motive l'électeur plus que l'adhésion au candidat, au programme qu'il soutient. Et tant que l'on n'aura pas créé un citoyen libanais, une citoyenneté qui soit au-delà des appartenances communautaires, et qu'il n'y ait pas un État impartial et fonctionnel qui puisse assurer la sécurité de chacun sans qu'il ne se sente contraint de demander de prêter allégeance à un leader communautaire pour obtenir leurs droits les plus élémentaires en matière de santé et d'éducation, il est à craindre que ce système confessionnel ne se perpétue à l'infini. Et c'était l'une des revendications des forces de renouveau d'évoluer vers un système civil à défaut d'être laïque. Une étude récente menée par des universitaires a montré que la religion demeure un critère majeur dans le choix du candidat. Et c'est tout à fait vrai que cette loi a favorisé cela, car la plupart des circonscriptions étaient plutôt homogènes. Un vote préférentiel devait s'exprimer au niveau de la petite circonscription du CASA. Donc cela a favorisé aussi bien le confessionnalisme que le clientélisme, que le pouvoir de l'argent, ces vieilles tares du système libanais dont on ne parvient pas à sortir près d'un siècle après la création de l'État du Grand Liban.
Aurélie Daher, je vous ai vu hocher la tête à plusieurs reprises. Vous êtes d'accord, c'est pas demain qu'on verra la fin du système confessionnel au Liban ?
Non, malheureusement, de ce point de vue-là, je partage complètement le pessimisme de Karim, et je pense que Samy n'est pas beaucoup plus optimiste. Je pense malheureusement que on a à la fois, si vous voulez, le problème de la confession au Liban. Effectivement, donc comme je disais, il y a eu l'histoire de la guerre civile, il y a eu l'histoire, donc comme disait Karim, il y a effectivement les assassinats, etc., qui ont effectivement polarisé en fait une grande partie de la population libanaise autour de la confession. Mais il faut bien comprendre que c'est pas une question religieuse, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se bagarrer entre dogmes maronites ou catholiques orthodoxes ou entre sunnites et chiites pour des raisons vraiment de dogmes, d'interprétation du Coran et de la Bible. Il faut voir la confession au Liban et notamment politique comme une espèce d'étiquette. C'est un peu comme les clubs de foot. Si vous voulez, on se retrouve avec des personnes qui votent pour leur club de foot. Ben voilà, on a toujours voté pour celui-là, de père en fils, etc. Et exactement comme au foot, on se retrouve avec une partie de hooligans, de zélés, qui en fait incarnent la véritable menace, qui seraient ceux qui pourraient vraiment mettre le feu aux poudres. Je pense là, dernièrement, donc là, j'ai eu des échos en fait de personnes que je connais au Liban et qui me racontaient. D'ailleurs, il y a certains épisodes qui sont arrivés jusqu'à la presse. On a eu, par exemple, on a vu quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé possible il y a 10 ans ou il y a 15 ans. On a une bande de jeunes sympathisants donc du Hezbollah et d'Amal, donc de jeunes chiites, qui ont fait un tour des quartiers où, en théorie, en général, ils ne sont pas. Notamment, ils sont passés par Achrafieh, qui est le quartier très chrétien, 14 martien de Beyrouth, en hurlant sous les fenêtres en pleine nuit, Shia, 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 donc chiite, 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 dans une espèce de démarche provocatrice. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu auparavant. Ça a été très mal vécu par les locaux. Dans l'autre sens, on a eu une espèce de raz-de-marée de personnes, de sunnites à Baalbek défilant donc avec des grands drapeaux du courant haririen aussi, pareil, devant les locaux du Hezbollah. Donc, quand Karim dit que effectivement on est en train de parler d'une possibilité de mise à feu d'un grand baril de poudre, je pense qu'effectivement, là, les grands gagnants vont avoir un rôle de... où il va falloir, dompter les troupes, ou en tout cas s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement, parce qu'on sent bien qu'il y en a qui, effectivement, ont envie d'aller à la castagne.
Samia Tchouani, c'est qui l'establishment aujourd'hui au Liban ?
L'establishment, c'est je dirais, des chefs politiques qui sont toujours les mêmes, enfin, depuis peut-être plus de 30 ans, depuis la fin de la guerre civile, on voit toujours les mêmes figures qui reviennent. Et il y a de l'autre côté l'establishment économique aussi qui joue un rôle dans le politique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs assez forts économiquement, qui peuvent influer sur le système politique au Liban. Je dirais c'est un establishment politico-économique qui gère ce pays. En plus, à la question du confessionnalisme au Liban, on ne va pas éliminer le confessionnalisme au Liban, on ne va pas l'oublier, mais on peut, à l'intérieur de chaque confession, avoir des gens valables, puisqu'on élit les députés, chacun dans sa confession. Donc, c'est un système qui a été pourri durant la guerre et qui, malheureusement, n'est pas sorti de ce pourrissement. On n'a pas vu éclore, après la guerre, de nouvelles figures qui peuvent changer le Liban, qui peuvent modifier la donne. Une nouvelle jeunesse politique, malheureusement, jusqu'à présent, on ne la voit pas. On espérait voir, par cette loi de la proportionnelle, malgré qu'elle était hybride, quelques nouvelles figures. Malheureusement, la loi était faite de façon à limiter tout changement possible dans l'avenir. Et cette nouvelle élection n'a pas engendré au Liban une nouvelle majorité. Il n'y a pas de majorité. C'est ça aujourd'hui. Il y avait dans le temps deux forces en présence, le 14 et le 8. Donc il y avait soit une majorité pour la 14, soit une majorité pour le 8 mars. Aujourd'hui, il n'y a plus de majorité. Même le Hezbollah qui dit qu'il a gagné l'élection aujourd'hui, bon, il a fait un bond en avant. Mais on peut dire que les forces libanaises qui sont un peu son pendant du côté maronite ont fait un très grand bond en avant. Ils ont doublé le nombre de leurs députés. Mais aucune majorité aujourd'hui n'est apparue après cette élection. Il va y avoir des majorités de situation pour voter une loi, pour voter l'élection du président de la Chambre, pour définir quel sera le nouveau président du Conseil. Mais cette majorité va être instable. Et c'est ça qui peut-être peut créer des problèmes dans l'avenir.
Aurélie Daher, vous êtes d'accord avec ce que disait Karim Bitard tout à l'heure au début de l'émission, en disant que les médias français, notamment, avaient exagéré cette victoire du Hezbollah ?
Oui, tout à fait. En fait, il faut pas oublier non plus quelque chose, c'est que donc, pour rappel, Rafik Hariri a été assassiné donc en février 2005, et là on a eu les premières élections post-tutelle syrienne, puisque les Syriens donc suite à cet assassinat se sont retirés du Liban. Il y a eu les premières élections sur la base, cette fois-ci, c'était pas un scrutin proportionnel, c'était majoritaire. Donc c'est le système qui dit que grosso modo, winner gets all, tous les sièges, ramasse tous les sièges. Et en 2009, idem, à chaque fois on a eu un parlement majoritairement 14 mars, mais en réalité quand on a refait le décompte sur la base d'un...
14 mars, donc le mouvement qui a été créé après l'assassinat de...
Exactement, et qui est donc anti-syrien et pro-saoudien et pro-occidental. Et donc quand on a fait un décompte des voix à chaque fois, en 2005 comme en 2009, donc on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'un système one man, one vote, un homme, une voix aurait donné si on n'avait pas système confessionnel, on s'est rendu compte à chaque fois que, en fait, le 8 mars avait ramasser la majorité des voix. Ah, je sais plus, c'était entre 50 et 55% des voix exprimées, donc c'était pas grand chose, mais quand même, déjà à l'époque, on avait compris que la majorité, si on pris de la population libanaise prise individuellement, avait quand même une tendance, enfin, en tout cas, le 14 mars ne représentait pas une majorité claire et nette. Et là, finalement, tout ce qu'on a en 2018, c'est une confirmation. Donc de cette tendance qui en fait s'est accentuée avec le temps. En 2011, le Hezbollah, sans même organiser d'élections, a, comme vous le savez, fait basculer la majorité du Parlement, donc de 14 mars vers 8 mars, en faisant tomber le gouvernement de Monsieur Hariri et en convainquant en fait les 11 députés de Monsieur, les 11 députés donc du leader druze Walid Jumblat de changer de bord. Donc sans élection, on a changé de majorité au Parlement. Là, en fait, ce que le Hezbollah a gagné, c'est juste une confirmation auprès de la population du choix, grosso modo, qu'il avait fait en 2011.
Aurélie Daher, Karim Bitard, Samir Touani, on va marquer une pause, le temps d'un nouveau journal sur RFI. On se retrouve dans...
Géopolitique. Chantal Leroux.
suite de géopolitique consacrée au Liban après les élections législatives, les premières depuis 9 ans. Que vont faire de leur victoire le Hezbollah, allié de Damas et de Téhéran, et ses alliés? Quel risque pour le pays en cas de guerre ouverte entre Israël et l'Iran après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien? On continue d'en discuter avec Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à l'université Paris-Dauphine et à Sciences Po, avec Karim Bitar, directeur de recherche à l'IRIS en ligne de Beyrouth, et Samir Tueni, directeur du bureau parisien du journal libanais Al-Nahar. Avec cette victoire du Hezbollah, est-ce que ce scrutin, même si c'est une victoire qu'il faut peut-être modérer, est-ce que ce scrutin marque un retour de la tutelle syrienne? Karim Bitar.
Il est vrai qu'il y a quelques figures qui étaient très proches du régime syrien qui se sont fait élire et qui reviennent en force au Parlement. Cela dit, les circonstances régionales ont tellement changé que cette polarisation s'est quelque peu atténuée. Beaucoup de listes étaient hybrides et n'étaient pas clairement identifiables à un camp ou à un autre. Et en tout état de cause, le problème de fond, c'est que depuis la fin de la guerre du Liban, la plupart des gouvernements, sinon tous les gouvernements, ont été des gouvernements d'union nationale où tout le monde est représenté. Donc quand bien même pendant la période électorale, on se sert un peu de l'épouvantail du Hezbollah pour mobiliser un peu les troupes et on prétend vouloir refuser ce nouveau rapport de force, tout le monde sait qu'au fond, ils sont d'accord pour revenir et gouverner ensemble. Le premier ministre Saad Hariri a parfaitement intégré le nouveau rapport de force et va de nouveau trouver un modus vivendi avec le Hezbollah. Et même les forces libanaises qui tiennent un discours encore hostile à l'arsenal du Hezbollah siègent dans un gouvernement d'union nationale avec ce parti. Donc il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas de majorité et d'opposition au Liban. On est en permanence dans des négociations d'épiciers pour se partager le fromage. Et les questions de fond, elles seront résolues à l'échelle internationale. Quand bien même tous les Libanais se mettraient d'accord sur la question des armes du Hezbollah, cela ne changerait absolument rien. C'est une question qui relève du rapport de force entre les États-Unis, l'Iran, Israël et beaucoup d'autres acteurs. Donc nous passons beaucoup trop de temps au Liban à parler de questions géopolitiques sur lesquelles nous avons très peu d'influence. Et malheureusement, notre classe politique est complètement incapable de s'occuper des questions quotidiennes qui préoccupent les citoyens, l'électricité, les ordures ménagères, le taux de chômage, le taux d'extrême pauvreté. Et on se retrouve avec une même classe politique qui va à nouveau se retrouver au sein d'un même gouvernement sans le moindre espoir de changement véritable.
Aurélie Daher, vous êtes d'accord, le camp Hariri est en perte de vitesse, mais Saad Hariri a toutes les chances de rempiler à la tête du gouvernement libanais?
Tout à fait. On a eu tellement de mal pendant 2 ans à se mettre d'accord entre, on va dire, principaux représentants des sunnites, des chiites et des chrétiens, pour trouver justement un modus vivendi qui correspondrait grosso modo à tout le monde et faire en sorte que la casserole ne déborde pas. On a enfin réussi en octobre 2016, et là donc Michel Aoun avait été élu président de la République, et puis Saad Hariri donc était revenu à son poste de Premier ministre. Je pense qu'on a eu tellement eu de mal à la mettre en place, et partout le marché, en fait c'est une formule qui a donné plutôt des résultats positifs, en tout cas tout le monde a l'air d'en être satisfait. Très probablement Nabih Berri, donc le chef d'Amal, va avoir à nouveau le poste de président du Parlement. Hariri va revenir à la tête du gouvernement. Monsieur Aoun restera président jusqu'à la fin de son mandat et les choses ne changeront pas.
Mais si Saad Hariri est nommé par Michel Aoun, est-ce qu'il devra tout de même promettre ou céder sur quelques points?
Il a déjà cédé la première fois. En revanche, moi ce que je vois, c'est que très probablement, on va demander à l'Arabie Saoudite elle-même de donner des garanties que ce qui s'est passé en novembre 2017 ne se reproduira pas.
Oui, alors il faut rappeler ce qui s'est passé, cette démission forcée annoncée depuis Riyad par Saad Hariri, la médiation d'Emmanuel Macron pour obtenir du prince héritier Mohamed Ben Salman l'exfiltration, entre guillemets, de Saad Hariri vers la France, et puis le retour de Saad Hariri à Beyrouth et sa démission qu'il a retirée. Et tout ça a été très très mal vécu par les Libanais.
Ça a été très mal vécu par les Libanais. Ça a été un épisode en même temps intéressant que moi j'avais trouvé très positif parce que initialement en fait le but de l'Arabie Saoudite a été de créer une espèce de déstabilisation au Liban, notamment au sein de la classe politique, de manière à ce qu'il y ait un sursaut sunnite anti-Hezbollah. En fait l'idée c'était de favoriser les faucons et les sunnites ont envoyé un message très clair à la fois à leurs compatriotes à l'Arabie Saoudite et j'ai envie de dire au reste du monde que attention, il y a des lignes rouges qu'on ne franchira pas, notamment la guerre civile, nous faire la guerre civile encore. Non, on ne le fera pas. Et donc finalement, tout le monde s'est mis derrière Hariri pour le faire.
L'ensemble de la classe politique.
Complètement, mais même la population, hein, même les chiites étaient pour un retour de Hariri. Ça a été un rare moment de d'harmonie de la part des Libanais autour d'une même cause nationale.
Karim Bitar, est-ce qu'il a laissé des traces cet épisode saoudien avec cette démission surprise et contrainte de Saad Hariri?
Oui, paradoxalement, il a peut-être un peu remis en selle Saad Hariri qui était en difficulté dans sa propre communauté. Et l'un des enseignements de ces élections, c'est que l'affaiblissement relatif de Hariri n'a pas du tout profité aux faucons sunnites qui tentaient de le déborder sur sa droite, comme le général Ashraf Rifi, proche de l'Arabie Saoudite, partisan d'une ligne très dure. Il y a environ un an, on pensait que c'était le nouvel homme fort dans la rue sunnite. Il avait terrassé tous les autres leaders à Tripoli. Et là, il se retrouve avec à peine quelques dizaines de voix sur sa liste dans un bastion sunnite comme Beyrouth Ouest. Ce qui veut dire que affaiblissement du courant du futur, oui, mais plutôt au profit de personnalités indépendantes et pas du tout au profit de ceux qui voudraient aller à une confrontation ouverte envers le Hezbollah. Donc en effet, on s'est resserré au sein de la communauté sunnite, on a mal vécu cette humiliation qu'a subi Saad Hariri en Arabie Saoudite. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a eu une sorte d'union nationale qui était assez émouvante et les choses n'ont pas dégénéré comme certains le souhaitaient. Donc le fait que le président de la République et le premier ministre aient réussi à sortir la main dans la main, un peu la tête haute de cette crise, c'est quelque chose qui peut donner un peu d'optimisme. Cela dit, tout cela pourrait être remis en cause aujourd'hui avec la nouvelle montée des tensions entre Israël et l'Iran. Et on a certains pays arabes qui sont en train aussi de monter le ton. Le Bahreïn, qui est très proche de l'Arabie Saoudite, est quasiment en train de légitimer les frappes israéliennes en Syrie. C'est quelque chose d'assez inédit. Donc on a une reconfiguration, une consolidation de ce rapprochement israélo-saoudien. Et s'il devait pousser vers une attitude encore plus musclée vers l'Iran, le Liban pourrait en payer les frais.
Aurélie Daher, vous êtes d'accord? Ce risque d'engrenage peut gagner le Liban, engrenage entre Israël et l'Iran, puisque il faut le rappeler, hein, ces derniers jours, il y a eu ces frappes de l'État hébreu, 70 missiles contre des cibles militaires iraniennes en Syrie. On n'avait pas vu pareille attaque depuis la guerre du Kippour en 73. Et ces frappes étaient des frappes de représailles à des tirs de roquettes par les gardiens de la révolution iranienne vers le plateau du Golan occupé et annexé par Israël. Donc le Liban, qui est vraiment juste à côté, a toutes les raisons du monde d'être inquiet.
Tout dépend de la forme que pourrait prendre le face-à-face israélo-iranien. Mais imaginons, hein, là on est complètement dans l'hypothétique, qu'effectivement ça frite sérieusement, que donc les deux pays décident de se lancer des missiles l'un contre l'autre. Il n'est pas exclu effectivement que le Hezbollah, en tout cas au Liban, prennent quelques gouttes de cette pluie. Pour autant, je pense qu'il est très intéressant de remarquer comment depuis 2006, en fait, et de manière encore plus claire, depuis la militarisation du conflit en Syrie en 2012, le face-à-face entre Israël et le Hezbollah, il se passe systématiquement en territoire syrien. On a un peu trop oublié l'épisode 2006, et notamment la manière dont la guerre de l'été 2006 entre Israël et le Hezbollah a été vécue en Israël.
Oui, parce que la guerre n'a pas réussi à mettre le Hezbollah à genoux.
Absolument pas. On a même vu donc une Israël bombarder le Liban non-stop pendant 33 jours et 33 nuits, donc sans jamais pouvoir affaiblir le taux de roquettes lancées par le Hezbollah contre le territoire israélien. Même le Hezbollah a augmenté le taux de ses tirs jour après jour pour atteindre, on a commencé avec 100 à 150 tirs de roquettes par jour. À la fin de la guerre, on était à 250-300. Donc là, les Israéliens, il y a quand même une grande partie de la classe militaire et même au sein du Mossad qui est contre l'idée d'un retour à vraiment de vraies frictions avec le Hezbollah, en tout cas en territoire libanais. Faut pas oublier que depuis, le Hezbollah s'est armé de roquettes qui vont beaucoup plus loin qu'en 2006. Donc là, on pourrait toucher Tel Aviv sans aucun problème.
Voilà, ils disent qu'ils disposent de missiles qui peuvent frapper au cœur d'Israël.
Exactement. Il faut pas oublier maintenant que le Hezbollah a des drones qui peuvent aussi aller bombarder le territoire israélien. D'ailleurs, il y a eu un essai où un drone du Hezbollah donc a mis quand même 42 minutes avant d'être repéré.
Et là, ça a suscité aussi déjà beaucoup de réactions en Israël.
Exactement. Donc, je pense que les Israéliens, s'ils veulent vraiment aller chercher des poux dans la tête du Hezbollah, ils le feront en Syrie. Mais ce qui s'est passé en 2006, je ne crois pas qu'on y reviendra.
Karine Bitar, que représente l'arsenal militaire du Hezbollah par rapport à celui de l'armée nationale libanaise? Le parti chiite affirme que l'armée serait trop faible pour résister à une offensive de l'État hébreu. Est-ce que c'est vrai?
Il est certain que l'arsenal militaire du Hezbollah est impressionnant. Aux yeux de l'Iran, le Hezbollah représente un peu le joyau de la couronne. Pour Israël, c'est la principale préoccupation. Cela dit, il est tout à fait vrai qu'il y a deux sons de cloche en Israël. Vous avez le son de cloche toujours alarmiste de Benjamin Netanyahou sur le Hezbollah et sur l'Iran. Mais en effet, l'état-major israélien et même les services de renseignement ne sont pas forcément sur la même ligne. Par exemple, sur l'accord nucléaire iranien, on a eu une déclaration du chef d'état-major israélien, le général Eisenkot, qui disait que, somme toute, cet accord nucléaire était plutôt bien négocié, qu'il empêchait effectivement l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire pendant une dizaine d'années. Donc, au-delà des enjeux de politique intérieure, on a vu que la popularité de Netanyahou est montée en flèche depuis que Trump a révoqué cet accord nucléaire, mais l'establishment de la défense en Israël sait quels seraient les risques d'une nouvelle guerre contre l'Iran et même simplement contre le Hezbollah. Lorsque l'Arabie Saoudite s'est efforcée un peu d'inciter Israël à adopter une attitude beaucoup plus ferme, on a eu des tas d'articles dans la presse israélienne disant « ne tombons pas dans ce panneau, ce serait beaucoup trop risqué ». Donc, je pense qu'il y a de vrais risques de dérive aujourd'hui. La plupart des guerres de ces 50 dernières années n'étaient pas forcément voulues par l'une ou l'autre partie et les choses peuvent déraper, surtout quand on a Trump, Netanyahou, MBS, toute cette configuration régionale. Mais en même temps, il y a toujours un équilibre de la terreur, une sorte de dissuasion qui pourrait préserver une certaine stabilité.
Et comment ont réagi les dirigeants, la presse et la rue libanaise à la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien?
Écoutez, c'était quelque chose d'assez prévisible. C'était une promesse de campagne. Trump a une fixette sur cette question depuis le tout début. Il souhaite démanteler tout l'héritage de Barack Obama. Ce n'est pas quelque chose qui a surpris au Moyen-Orient, mais les conséquences sont quand même potentiellement très dangereuses. Israël a très vite monté les enchères après cette décision. Le camp ultra-conservateur en Iran a également estimé que ces réserves étaient justifiées. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des Européens. Si cet accord doit être sauvé, ce serait grâce aux Européens et à l'administration Rouhani qui aurait intérêt à maintenir la voie de la raison. Ce n'est pas un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran, donc dans l'absolu, cet accord pourrait rester en vigueur avec les Européens, l'Allemagne, l'ONU, l'Union européenne. Donc je pense qu'on entre véritablement dans une phase de montée des périls. La seule chose qui rassure un peu, c'est encore une fois cet équilibre de la terreur, cette dissuasion qui a été instaurée en 2006.
Aurélie Daher, est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Karine Bitar? Est-ce qu'il y a quand même un risque de voir la région s'embraser ou pas?
Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a avancé Karim. Après, est-ce que la région va s'embraser? J'ose espérer que la France et l'Union européenne mettront vraiment tout leur poids, justement, pour calmer. Je sais, jamais ça devait sérieusement s'envenimer, notamment entre Arabie Saoudite, Israël, États-Unis d'une part, et puis Iran, Syrie, Hezbollah de l'autre, même si je n'ai pas toutes les cartes en main. Hein. Je reste plutôt positive. Je le répète, éventuellement, il y aura peut-être quelques grêlons qui tomberont de manière localisée après la grande déflagration. Je n'y crois pas.
Vous pensez qu'on peut transformer cet accord, le sauver en l'élargissant en en faisant un accord de sécurité régionale, l'Iran serait prêt à accepter ça?
Mais en fait, j'ai envie de dire, le problème, c'est pas tant ce qu'on négocie que ce qu'on est prêt à vraiment appliquer de ce qu'on a négocié. Parce que vous savez, de par l'histoire, on a eu énormément de traités signés de grandes gaietés de cœur des deux côtés. Et pour autant, c'est des traités qui n'ont jamais été appliqués ou pas appliqués exactement à la lettre. Donc la question, c'est quel est le degré de bonne foi des personnes, ou en tout cas des acteurs qui entrent dans ce traité. Là, on est face à un acteur, notamment l'acteur américain, qui a, comme l'a dit Karim, clairement fait savoir qu'il est contre. Effectivement, on a aujourd'hui une équipe autour de Trump sur le dossier qui, c'est les anciens néocons, notamment pour John Bolton. John Bolton, en 2006, c'était déjà l'âme damnée de Bush sur le Proche-Orient. Donc, on a repris les mêmes et du coup, on recommence. On est à l'abri de rien de ce point de vue-là, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que là, c'est à l'Europe. L'Europe se retrouve avec une responsabilité peut-être dont elle ne voulait pas, mais les Américains, finalement, force l'Union européenne à jouer la partie raisonnable et à faire tout le travail de containment si jamais l'Amérique avait vraiment des envies de monter au créneau.
Je voudrais qu'on dise encore un mot, Karim Bitar, sur la situation des réfugiés syriens au Liban. 1,5 million de réfugiés syriens depuis 6 ans. Quelles ont été les conséquences pour le Liban de cette arrivée massive de Syriens ?
Alors déjà, d'après les chiffres officiels publiés par l'ONU, il faudrait revoir un tout petit peu à la baisse le chiffre d'1,5 million. Certains estiment même qu'on est tombé un peu en dessous du million.
C'était le chiffre donné par Saad Hariri il y a quelque temps.
Absolument. Souvent, les gouvernements ont tendance à gonfler un peu les chiffres pour obtenir plus de soutien financier de la communauté internationale. Le plus probable, c'est qu'il y en a 1 million d'inscrits et qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas inscrits. Mais en tout état de cause, on pouvait s'attendre à ce que le PIB libanais n'en souffre beaucoup plus. Il y a eu ce que les économistes appellent un effet multiplicateur qui a fait que l'économie a relativement tenu le coup, parce que c'est vrai que ça a affaiblit quelque peu certains secteurs, mais d'un autre côté, il y a eu une vague de travailleurs humanitaires qui sont arrivés, de financements étrangers. Il y a eu cette grande conférence qui s'est récemment tenue à Paris, la conférence Cèdre, qui a débloqué près de 11 milliards de prêts. Donc tout cela cherche plutôt à éviter un effondrement de l'économie libanaise. Par contre, cette présence massive de réfugiés syriens a quelque peu réveillé les hantises existentielles parfois de certains Libanais. On a eu certains discours xénophobes tenus par certains partis, agitant la hantise d'une naturalisation, d'une présence permanente des Syriens. Et les Libanais ont là-dessus le souvenir des réfugiés palestiniens qui étaient arrivés en 1948. Ce devait être provisoire.
Et ils sont toujours là dans les camps.
Le provisoire au Liban a tendance à durer. On parlait du confessionnalisme tout à l'heure. On nous avait dit en 1926 que ce confessionnalisme serait uniquement provisoire dans l'attente d'une déconfessionnalisation. Et un siècle plus tard, nous y sommes encore. Et une étude récente de Carnegie a montré en effet qu'un grand nombre de réfugiés syriens ne rentreraient pas spontanément en Syrie, même s'il devait y avoir la paix. Il faudra donc prévoir des incitatifs économiques au retour de ces réfugiés. Donc il faut prendre en compte aujourd'hui que le Liban est un pays où vivent environ 6 millions de personnes, et commencer à repenser l'économie libanaise sur cette page-là, sans forcément accepter des aides économiques qui viendraient compenser une intégration économique comme parfois la communauté internationale semble pousser les autorités libanaises. Mais en même temps, il faut sortir cette économie d'une économie de rente qui s'appuie sur une main-d'œuvre extérieure à bon marché et réorienter notre économie vers les secteurs productifs, créateurs de valeur ajoutée. Donc cette question des réfugiés doit nous inciter à repenser tout le modèle économique libanais qui est en partie responsable des blocages politiques.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Aurélie Daher, enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Dauphine. Je renvoie nos auditeurs à votre livre, Le Hezbollah, Mobilisation et Pouvoir, paru au PUF en 2014. Karim Émile Bitar, directeur de recherche à l'IRIS et professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Beyrouth, justement. Et Samir Tueni, directeur du bureau parisien du quotidien libanais Al-Nahar. Merci également à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidée à la préparer. Bonne semaine à tous.